Vous êtes bien sur Radio Orient, il est midi, le journal François-Xavier de Calonne. Le déplacement dimanche et lundi prochain de la première ministre française en Algérie. La jeunesse des deux pays sera notamment au menu du comité intergouvernemental de haut niveau. Nous y reviendrons avec Faisal Metaoui, journaliste à 24 heures Algérie. Le soulèvement populaire en Iran après la mort de Mahsa Amini suite à son arrestation pour un voile jugé mal porté. Notre invitée sera Irène Ansari, coordinatrice de la Ligue des femmes iraniennes pour la démocratie. Le Maroc vise à augmenter le volume des échanges avec l'Arabie Saoudite à 5 milliards de dollars pour les 5 années à venir, une ambition formulée par le ministre marocain de l'Industrie et du Commerce. L'invité de Pluriel hier soir était Corinne Narasiguin, secrétaire nationale à la coordination numéro 2 du Parti Socialiste. Elle est notamment revenue sur le nouveau texte sur l'assurance chômage débattu à l'Assemblée nationale. Extrait de votre édition. Elisabeth Borne attendue à Alger avec 16 ministres. Un déplacement dimanche et lundi prochain. Il s'agira de continuer de ressouder les liens entre la France et l'Algérie et de concrétiser avec son homologue algérien le partenariat conclu entre les présidents des deux pays en août dernier. La jeunesse des deux pays sera notamment au menu du comité intergouvernemental de haut niveau. Faisal Metaoui, journaliste à 24 heures Algérie, nous fait part de l'intérêt que porte la jeunesse à la question mémorielle.
C'est vrai qu'on a tendance à entendre certains experts en France, ou certains historiens, ou certains pseudo-spécialistes de l'Algérie dire que les jeunes se détournent de la question mémorielle, ne sont pas intéressés. Non, ce n'est pas vrai, parce que ce que nous constatons dans les conférences, dans les débats, lors du Salon du Livre, dans des projections de films en rapport avec l'histoire, l'Algérie célèbre le 60e anniversaire du recouvrement de sa souveraineté, parce que l'Algérie existait bel et bien avant la colonisation française, qui était une colonisation de peuplement qui a commis beaucoup de massacres, qui a eu des pillages, qui a eu des destructions de biens, de dépossessions. Tout cela est bien mentionné dans les manuels scolaires en Algérie, dans les livres on vend en Algérie. Et la jeunesse algérienne dit souvent que oui, elle s'attache à l'héritage des ancêtres, elle suit un peu ce qui se passe surtout ces derniers temps. Et on a vu comment les Algériens, notamment les jeunes, ont réagi après les déclarations du président Macron, en septembre 2021, lorsqu'il a douté de l'existence de la nation algérienne, parce qu'avant 1930, ces questionnements sont toujours dans le débat. Et la jeunesse algérienne, oui, elle est fière du passé de ses ancêtres et évidemment, elle veut s'ouvrir sur le monde. Elle veut avoir des partenariats, des programmes de formation, des échanges universitaires, des échanges touristiques, pourquoi pas. C'est très difficile pour les jeunes Algériens d'avoir un visa touristique en France, il faut le noter au passage. Mais disons que cette question intéresse toujours la jeunesse algérienne.
Faisal Metaoui, est-ce que vous pouvez nous faire part du rôle des Algériens de France dans l'économie algérienne?
Oui, pendant longtemps, la diaspora algérienne, il y a beaucoup d'Algériens à travers le monde, pas uniquement en France, notamment au Canada, en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Chine, plus récemment en Indonésie aussi, dans les pays arabes comme les Émirats Arabes Unis ou le Qatar. Les Algériens de France se détournaient, n'étaient pas intéressés par des projets d'investissement en Algérie. Et oui, les récentes visites du président Abdelmadjid Tebboune, qui s'est rendu notamment en Turquie, il a visité la Tunisie, l'Arabie Saoudite, le Qatar, le Koweït et d'autres pays, il a, dans tous ces pays, réuni les Algériens établis dans ces pays, il les a invités à venir investir en Algérie, à créer des projets dans tous les domaines, notamment dans les domaines du numérique, du digital, etc. Et l'appel est aussi lancé pour les Algériens qui vivent en France pour créer des nouveaux ponts. Cela est mentionné ici dans la déclaration entre l'Algérie et la France pour qu'il y ait des investissements d'Algériens avec des aides accordées par les deux États, c'est-à-dire l'État français et l'État algérien. Donc pour qu'il y ait des projets dans les domaines aussi, l'Algérie demande beaucoup de projets dans le domaine agricole, dans les domaines de la formation aux nouvelles techniques, notamment dans le domaine de la recherche scientifique, de l'intelligence artificielle, des petits projets ou des grands projets. Et ce rôle, effectivement, est très souhaité du côté algérien, puisque l'Algérie et la diaspora algérienne est parmi les rares au monde aussi à ne pas avoir suffisamment de projets ou de facilitations dans le pays d'origine.
Faisal Metaoui, journaliste à 24 heures Algérie. Le Maroc vise à augmenter le volume des échanges avec l'Arabie Saoudite à 5 milliards de dollars pour les 5 années à venir, ambition formulée par le ministre marocain de l'Industrie conseiller du commerce, Riyad Mezour, s'exprimait lors du Forum économique Maroc-Arabie Saoudite, forum organisé par la Confédération générale des entreprises du Maroc et la Fédération des chambres saoudiennes. Ce sont des statistiques publiées par l'Office des Tunisiens à l'étranger. Elles prennent en compte l'année 2021. 44,2% des transferts en devises proviennent des Tunisiens résidant en France. Cela représente 3 807,9 millions de dollars, de dinars. Près de 87% proviennent de ces transferts de pays européens. Après plusieurs semaines de manifestations en Iran, la vive contestation continue à Téhéran. Mouvement déclenché par la mort de Mahsa Amini suite à son arrestation par la police des mœurs pour un voile jugé mal porté. Un mouvement réprimé par les autorités. Le président américain indique que les États-Unis infligeront de nouvelles sanctions aux auteurs de violences contre des manifestants en Iran. De son côté, Téhéran a réagi en dénonçant l'hypocrisie du président américain sur ce soulèvement populaire en Iran. Entretien avec Irène Ansari, coordinatrice de la Ligue des femmes iraniennes pour la démocratie.
Ce qui se passe en Iran, c'est une accumulation d'injustices et de privation des droits les plus élémentaires qui fait descendre les femmes et les hommes dans les rues. Donc, ça veut dire, certes, on n'attendait pas à ces mouvements massifs, mais quelque part, on attendait parce que, en connaissance la situation de la société iranienne, tout peut déclencher ce type de protestation. N'oublions pas qu'en novembre 2019, l'augmentation du prix de l'essence a fait descendre des gens dans la rue, mais leurs revendications ne se limitaient pas à cette augmentation du prix du pétrole, mais ils réclamaient à bas la dictature. Donc ça montrait que dans cette société, les injustices, privation de l'égalité, de la liberté, a fait de sorte que les gens attendent un moment pour montrer leur mécontentement de ce régime.
Et quelles sont les spécificités de ce mouvement auquel, vous l'avez souligné, participent les femmes, mais aussi les hommes?
Oui, particularité de ces dernières protestations qui, heureusement, continuent encore malgré les répressions et le nombre de morts qu'on n'arrive pas à avoir le chiffre exact, mais on parle au moins de 200 morts depuis 2 semaines et des milliers blessés, à savoir que certaines et certains ont peur de s'adresser pour se faire soigner dans les hôpitaux parce qu'ils risquent ou elles risquent d'être arrêtées, et des milliers d'arrestations. Cette spécificité de ce mouvement, c'est que on voit c'est plutôt les jeunes. C'est les jeunes femmes et les jeunes hommes qui sont nés sur ce régime, qui n'ont rien connu que ce régime, mais qui ont ras-le-bol de continuer à vivre comme ça. Donc, du coup, les spécificités, c'est les jeunes, les femmes en premier rang. Et pour votre info, il y a les étudiants, les ouvriers, les enseignants qui sont en train de joindre à ce mouvement. Donc, les slogans essentiels que vous avez dû entendre, c'est « Femme, vie, liberté » en 3 langues, aussi en kurde et en farsi, qui est slogandé dans les rues des différentes villes en Iran, car certes, il y avait une répression généralisée depuis que ce régime est au pouvoir, mais les femmes ont été privées de tous les droits. Et cette loi de porte-voile obligatoire, ce n'est pas seulement un bout de tissu sur la tête, c'est la domination de ce masculine imposée aux femmes. C'est pourquoi les femmes sont en premier rang, mais leurs revendications dépassent pour suppression de la loi sur le porte-voile obligatoire ou bien la suppression de la police des mœurs. Ça va plus loin, ils réclament l'égalité, justice sociale et la liberté.
La crise économique que vit aujourd'hui l'Iran a-t-elle contribué, selon vous, à amplifier ce mouvement de contestation?
Sûrement, à savoir que l'Iran est en une crise économique très très profonde depuis des années, Pourtant, ce pays, c'est un pays très riche, mais le partage de richesses est de sorte que c'est l'État, les membres de l'État et son entourage qui sont remplis leurs poches au prix de mettre plus de 50 millions d'Iraniens en pauvreté, à savoir que les chiffres exacts de c'est compliqué à obtenir, même les chiffres étatiques partent de 40% de la population qui vit sur le seuil de pauvreté. Donc, ça fait plus, l'Iran, c'est un pays de 80 millions d'habitants, et donc c'est très compliqué pour les gens de vivre, de finir le mois. Il y a beaucoup de chômage, mais pourtant c'est un pays très 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 riche. Et donc les sanctions suite aux aventures nucléaires du régime a aggravé la situation économique en Iran. Du coup, les jeunes sont touchés massivement par cette crise économique, en plus d'être privés de leurs droits plus élémentaires, de choisir leur mode de vie, choix vestimentaire. C'est la crise économique qui est aussi une des raisons de ces vagues de protestations actuelles en Iran.
Et comment accueillez-vous la mobilisation internationale face à la répression des manifestations en Iran? Une mobilisation internationale, notamment le week-end dernier, dans de nombreuses grandes villes.
C'est très bien. Heureusement, et au contraire de ce qui s'est passé en 2019, parce qu'en 2019, il y avait un mouvement de protestation en Iran qui a été réprimé dans le bain de sang. Il y a plus de 1500, je parle de 2019, tués et des milliers de blessés et 7000 arrestations. Mais on n'a pas pu obtenir une solidarité internationale telle qu'on est témoin aujourd'hui. Et là, le régime a pu réprimer ces mouvements de protestation. Cette fois-ci, heureusement, malgré que la connexion d'Internet est très compliquée ou fortement perturbée, donc les infos arrivent et donc ça a fait que les Iraniennes et les Iraniens et aussi beaucoup de gens dans les différents pays ont descendu dans la rue pour dénoncer cette répression, de slogan « Femme, vie, liberté », de dire cet slogan qui est dit actuellement en Iran massivement, et de soutenir ces mouvements, de dénoncer. Je pense que ce soutien ne suffit pas, il faut continuer.
Et aujourd'hui, vous attendez une réaction et une condamnation plus forte, notamment de la part de la France, face à la répression de ces manifestations?
Absolument. Il faut condamner haut et fort ces répressions. Il faut soutenir le peuple iranien dans leur combat pour obtenir la liberté et l'égalité. Et je pense que les prises de position en France, malheureusement, n'est pas à l'auteur de ce qu'on attendait d'un pays qui défend les droits humains.
Irène Ansari, coordinatrice de la Ligue des femmes iraniennes pour la démocratie, la ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, indique que la France travaille au sein de l'Union européenne à faire adopter le gel des avoirs et l'interdiction de voyager contre les responsables de la répression en Iran. Le gouvernement éthiopien accepte une invitation de l'Union africaine pour participer à des pourparlers de paix. Des discussions avec les rebelles de la région du Tigré, la date et le lieu n'ont pas été annoncé. L'invité de Pluriel hier soir était Corinne Narasiguin, secrétaire nationale à la coordination numéro 2 du Parti Socialiste. Le premier texte débattu à l'Assemblée nationale concerne les règles de l'assurance chômage. Emmanuel Macron a annoncé la possibilité par décret de moduler l'assurance chômage pour qu'elle soit plus stricte quand trop d'emplois sont non pourvus et plus généreuse quand le chômage est élevé. La réaction de Corinne Narasiguin.
Ce que propose cette modulation que propose Emmanuel Macron n'a aucun sens, puisque les personnes qui se retrouvent au chômage ne sont pas responsables de la conjoncture dans laquelle ils se trouvent, dans laquelle ils se retrouvent au chômage, et donc il n'y a aucune raison que leur capacité à se nourrir correctement ou à garder un toit dépendent du fait qu'il y ait plus ou moins de niveau de chômage en France ou du nombre d'emplois non pourvus. Ça n'a aucun sens. Et encore une fois, c'est toujours l'habitude d'Emmanuel Macron de faire peser sur les chômeurs la responsabilité de la situation dans laquelle ils se trouvent, comme si ils étaient chômeurs parce qu'ils étaient fainéants, parce qu'ils le souhaitaient. Et ça, c'est scandaleux. Et puis, par ailleurs, ils essaient encore de faire des économies sur le dos des chômeurs, alors qu'ils continuent à vouloir réduire les impôts sur les entreprises, y compris les grandes entreprises, et ils n'envisagent aucun moment de rétablir la flat tax ni l'ISF. Et donc ça, on voit bien que c'est la continuité des politiques qu'a toujours mené Emmanuel Macron dans le quinquennat précédent, donc qui n'a changé en rien sur ces questions-là. La question du chômage, c'est une question évidemment endémique dans le pays, qui reste une question très sérieuse, mais les emplois non pourvus, ça c'est pas la faute des chômeurs, c'est le problème d'anticipation pour prévoir des formations professionnelles adéquates, pour prendre en compte les questions de difficultés de mobilité et de coûts, en termes de coûts de temps et d'argent, pour que les chômeurs puissent accepter des emplois s'ils sont correctement formés, si évidemment ces emplois correspondent à leurs compétences, des emplois qui sont éloignés de chez eux. Voilà, donc c'est un problème qui est beaucoup plus large et qu'on ne peut pas faire reposer sur l'épaule des chômeurs.
Corinne Rassiguin, les prix de l'électricité et du gaz vont augmenter de 15% en début d'année prochaine. Les prix alimentaires ont véritablement explosé dans les supermarchés. Vous redoutez une explosion sociale dans les semaines et les mois qui viennent? On se rappelle de la crise des Gilets jaunes qui avait commencé en octobre 2018.
Oui, je pense qu'au fur et à mesure que les Françaises et les Français vont ressentir, surtout sur leurs factures, les dégâts de cette inflation, on risque d'avoir effectivement une explosion. On a une colère qui gronde depuis longtemps, qui n'a pas été soldée par les résultats des élections présidentielles ni législatives, et qui n'a pas apporté un espoir de changement. Et donc, effectivement, cette colère, elle peut se traduire en explosion sociale. On n'a pas encore vu cela, puisqu'on a vu que la mobilisation syndicale, malheureusement, pour l'instant, n'a pas encore été aussi forte qu'espérée, parce que, paradoxalement, justement, aussi, cette inquiétude sur le pouvoir d'achat fait qu'on hésite plus à perdre une journée de salaire en faisant grève. Mais s'il n'y a pas de réponses concrètes qui sont apportées sur les salaires et sur le blocage des prix, effectivement, on prend un grand risque d'explosion sociale dans les prochaines semaines, et en tout cas dans les prochains mois.
Corinne Narasiguin, secrétaire nationale à la coordination numéro 2 du Parti Socialiste, elle était l'invitée de Pluriel hier soir, émission disponible sur votre site internet radioorient.com. Loïc Barrière recevra à 19h et 23h Françoise Fitter, conseillère départementale du canton de Perpignan 3, vice-présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales et membre du conseil national du Parti communiste. Le campement de Forceval dans le nord-est de Paris a été démantelé. Ce matin, il rassemblait depuis un an une centaine de consommateurs de crack. Un important dispositif policier s'est déployé tôt ce matin autour des lieux en présence du nouveau préfet de police de Paris, Laurent Nunez. Vous êtes bien sur Radio Orient à 12h30, votre journal en langue arabe présenté par Mazen Hamoud. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 15h pour votre flash, 17h30 pour votre journal en langue française. Très bon début d'après-midi à l'écoute de Radio Orient. Il est 12h18.